Midi passé de quelques minutes, bonjour à vous et bienvenue dans votre magazine Actualité culturelle associative, festive, politique et j'en passe. C'est le Mac du Tarn depuis le studio de CFM Accord de Sur-Ciel. La cité de Cordes-sur-Ciel qui vibre depuis le 18 juillet au son des musiciens classiciens qui s'y produisent dans le cadre du festival Musique Sur-Ciel et pour lequel CFM Radio est partenaire. À la réalisation de cette émission, c'est Thomas et au micro c'est Jaco. Aujourd'hui, nous recevons un duo d'inséparables, la soprano française Salomé Allaire et le pianiste chef d'orchestre Nicolas Kruger. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir dans notre studio aujourd'hui donc pour parler de la représentation que vous allez donner demain à 20h30 à l'église Saint-Michel dans le cadre du festival Musique Sur-Ciel. Avant de commencer, des patronymes bien germaniques pour des artistes français.
Salomé, c'est vrai, mais moi c'est parce que je suis d'origine alsacienne.
Oui.
Toi, c'est plus...
Moi, c'est plus compliqué.
La famille.
Des origines bien, bien lointaines, mais effectivement, le patronyme,
ouais.
Voudrait à penser que je viens de là-bas.
Oui. En tout cas, des artistes français qui rayonnent à l'international maintenant. Donc Salomé, que l'on présente aujourd'hui comme l'une des voix les plus enthousiasmantes parmi les sopranos. Nicolas, très grand pianiste et chef d'orchestre, directeur musical aussi. Mais avant de s'intéresser à ça, la programmation du jour dans le cadre du Festival Musique Sur-Ciel, à l'heure où nous enregistrons, il y a les Impromptus, donc au Musée du Sucre à midi, le spectacle qui s'appelle Violon Virtuose. À 17h30 dans la Maison Gaugiran, c'est des causeries entre musiciens et luthiers. Donc là, c'est une rencontre qui est proposée entre des musiciens et les luthiers pour pouvoir discuter de musique, d'instruments. À 20h30, de grands concerts à l'église Saint-Michel, où Jean-Claude Pelletier, au piano, sera accompagné du Quatuor Girard pour reprendre des œuvres de Schumann et de Gabriel Fauré. Aujourd'hui, dans le studio, donc, nous avons Salomé et Nicolas. Demain, à 20h30, vous allez nous proposer un grand concert où vous allez interpréter Pierrot Lunaire de Schoenberg et des valses, des grandes valses de Strauss. Mm-hmm. Interpréter Pierrot Lunaire, Salomé, pour une soprano, ce n'est pas évident parce qu'il y a le Sprechgesang, donc le parler chanté. Comment est-ce que tu t'es préparé pour travailler cette œuvre-là?
Oui, alors, c'est effectivement un exercice bien particulier qui ne ressemble pas vraiment à du chant. C'est du parler-chanter, hein, tu l'as dit, je crois.
Oui.
Sprechgesang. Mais Schoenberg, heureusement, a été assez spécifique et précis dans sa préface de cette œuvre, puisqu'il il proposait là une innovation totale. Donc, tant qu'à faire, il a un petit peu expliqué comment il fallait s'y prendre. Donc, il détaille bien que les hauteurs de notes qui sont écrites, parce qu'il y a des notes écrites, doivent être respectées. Mais qu'aussitôt, la note doit être quittée pour glisser vers le haut ou vers le bas, à la manière de quelqu'un qui parle. Bon, en plus, moi, quand je parle, c'est peut-être un côté alsacien.
Oui.
J'ai un petit peu une tendance à chanter un petit peu, c'est un peu mélodique. Donc j'essaye finalement de me rapprocher de ça. Donc par exemple, la première phrase qui fait « Den Wein, den man mit Augen trinkt », ça, ce sont les notes écrites. Donc je le travaille comme ça, comme si c'était une mélodie, et après au lieu de faire den Wein, den man, je vais faire den Wein, den man mit Augen trinkt, au lieu de trinkt, si je chantais.
Donc il faut trouver l'équilibre entre le parler et le chanter à chaque moment. Quoi.
Et comme il l'explique, bien attaquer les notes sur la hauteur et puis après glisser pour que ce soit souple et qu'elle ne ressemble pas à une mélodie chantée.
Okay.
Et effectivement, il était toujours, c'était un équilibre sur lequel il a toujours eu des difficultés à obtenir ce qu'il voulait, puisque la plupart du temps, les gens étaient trop justement appliqués à faire les notes, alors que pour le coup, c'est très difficile en plus, hein, de chanter vraiment à la hauteur des notes. Mais les gens le chantaient trop et ils précisaient toujours « Pierrot ne se chante pas ». Donc il y a eu des gens qui se sont servis de cette citation de Schoenberg « Pierrot ne se chante pas »
pour
faire complètement
parler.
Autre chose. Mmh. Voilà, donc pour faire « Den Wein, den Mann mit Augen trinkt » juste en rythme. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment ça, Pierrot. Parce qu'il y a quand même des rencontres qui doivent se faire avec les autres instruments. Et c'est quand même très écrit et c'est aussi prouvé par certains numéros qui sont vraiment en imitation comme des canons, comme si on faisait Frère Jacques, sauf que la mélodie est plus compliquée que Frère Jacques, mais si moi je chantais pas du tout les notes écrites, on n'entendrait pas du tout ce qu'a écrit Schoenberg, à savoir un canon. Donc si j'étais trop loin des notes écrites, on n'entendrait plus.
On n'entendrait plus la même chose. Quoi. Voilà. Tu as parlé de la rencontre avec les instruments, et là vous allez proposer plutôt une représentation fidèle à l'écriture de Schoenberg, parce qu'il y a des flûtes, des clarinettes, violons, violoncelles.
Oui.
Instrumentalement parlant, Nicolas, est-ce que tu peux nous donner quelques mots Mais sur
alors, déjà, je voudrais compléter. En fait, ça vient pas de nulle part, le Sprechgesang. Il y avait autour de lui, dans les années 1900-1910, le cabaret berlinois, parce que cette œuvre a été commandée par une chanteuse, une diseuse de cabaret berlinois. À cette période, il y avait une grande mode du mélodrame, donc de la musique avec des textes parlés par-dessus. Et Schoenberg a joué avec les habitudes des cabarets de l'époque pour créer cette œuvre. Donc ça ne tombe pas non plus complètement comme une météorite.
D'ailleurs, ce sont souvent des femmes qui interprètent Pierrot Lunaire, à ce que j'ai vu.
A priori, c'est plutôt pour une femme, oui.
Ouais, même si ça n'est pas noté dans la partition.
Oui.
Il n'a pas précisé ça, mais d'abord, c'est une femme, cette diseuse Albertine Zem, qui a commandé cette œuvre à Schoenberg en lui disant d'aller le plus loin possible dans l'audace pour inventer quelque chose de nouveau. Elle voulait créer un grand choc, mais la proposition vient d'elle avant l'idée de Schoenberg.
Il a bien réussi parce qu'il était précurseur de ce, entre guillemets, de ce style-là à l'époque.
Ah oui, il a vraiment créé quelque chose à partir de cette proposition, à partir de cette idée et à partir de l'audace des cabarets qui ne pouvaient pas avoir lieu dans les salles traditionnelles, surtout viennoises, d'où Schoenberg est originaire, où on jouait la musique classique ou les valses de Strauss, des choses comme ça. Mais dans le cabaret berlinois, on pouvait tenter toutes sortes d'aventures nouvelles musicales.
Bon, alors, la communication entre la voix, donc la voix de la soprano, et les instruments, si tu dois nous aider à visualiser un peu ce que ça doit
être. Là aussi, il a essayé de créer quelque chose de complètement nouveau, des associations d'instruments qu'on n'avait jamais vues. Hein, dans les petites formes comme ça de musique de chambre, on mettait des cordes ensemble, ou des vents ensemble, quatuor à vent, quatuor à cordes. Et là, il a mêlé vent et cordes pour créer un petit orchestre aux mille couleurs pour tenter plein d'expériences d'association avec la voix.
On va écouter tout de suite ce que ça donne, hein, un morceau de la pièce donc, de Pierrot Lunaire de Schoenberg. Là, c'est Mondes Trunken par Pierre Boulet. Mondes Trunken de Schoenberg, interprété par Pierre Boulez. Nicolas vient de me reprendre pour me dire qu'on prononçait le Z. Donc Nicolas Kruger et Salomé Aller qui sont avec nous dans le studio de CFM Accorde pour parler de leur représentation demain à 20h30 à l'église Saint-Michel dans le cadre du Festival Musique sur Ciel. Alors Salomé, grande voix soprano, là on vient de parler un tout petit peu d'une des pièces que vous allez faire demain, donc Pierrot Lunaire de Schoenberg. Il y aura également du Strauss avec les grandes valses.
Voilà, le Strauss ne concerne que les instrumentistes, et c'est une version dont tu veux peut-être dire quelques mots, Nicolas, puisque...
Ok, sur Strauss, il n'y a pas de chant.
Ce sont des valses viennoises typiques.
Ah, vous allez entraîner l'église Saint-Michel.
Le beau Danube bleu, etc. Oui. Hein, et l'intérêt ici, c'est que c'est écrit pour grand orchestre, mais que Schoenberg en a fait une réduction en son temps pour qu'il soit joué dans les cafés viennois pour un ensemble très, très proche de celui du Pierrot Lunaire. Donc c'était intéressant et amusant de dire d'où vient Schoenberg d'abord, parce que c'est un viennois, il entendait des valses tous les jours autour de lui, et de voir ce qu'il fait pour réorchestrer, réinstrumenter pour un petit ensemble valse.
Des valses, ouais.
Donc mais là, moi, en première partie, je chante quand même aussi quelques autres choses. Donc du chant, il y en aura aussi en dehors du Pierrot. Et ça sera justement, comme disait Nicolas, le moyen de bien voir d'où vient cet univers du Sprechgesang, puisque nous chanterons quelques pièces extraites de ces cabaret songs, ces chansons de cabaret, qui donneront déjà bien l'esprit humoristique qu'on retrouve après dans le Pierrot.
Dans le Pierrot.
Donc c'est pas du chant traditionnel, c'est plutôt un petit peu comme au café.
C'est ça. Donc demain, c'est plutôt une soirée cabaret là, à l'église
Saint-Michel. Oui,
là,
on va beaucoup s'amuser. Hein.
Et qui va
la
terminer en grande valse.
La musique classique, ça peut être très, très marrant.
Ouais, on n'y pense pas souvent pour s'amuser.
Et
pour,
et puis les grands sopranos et tout ça. Ici, moi, je ne suis pas soprano, je suis récitante.
Oui.
Donc je raconte une histoire et c'est des histoires très, très fantasques que celles de Pierrot. Hein. Au départ, ce sont des poèmes d'Albert Giraud, un symboliste belge, qui ont été traduits en allemand parce qu'il y avait une grande vogue pour ce poète qui était un petit peu gore, un peu trash, et qui écrivait des histoires un petit peu blasphématoires. Ça amusait beaucoup les gens dans ce courant expressionniste. Et donc, c'est plutôt des histoires souvent grinçantes, fantasques. Ce personnage de Pierrot, qui est Pierrot de la Commedia dell'arte, qui fait vraiment des petits coups bas, qui aime bien provoquer, qui aime bien s'amuser aux dépens de l'Église. Notamment, il y a tout un long passage où le Christ en prend un petit peu pour son grade.
Il sera assez goûteux dans l'église.
Voilà, donc on sera vraiment pas le nez dans notre pupitre avec l'air sérieux. On va bien s'amuser demain. Et j'espère le public aussi.
Bon, tu seras récitante demain, mais tu es également une soprano. Et pour te donner un peu la craie, pour que tu fasses un peu la prof, si tu dois expliquer à des profanes les différentes tessitures de voix.
Voilà, alors chez les femmes, il y a du plus aigu au plus grave, la soprano coloratour, ça sera typiquement celle qui chante la reine de la nuit, dans la flûte enchantée. Ça, c'est la voix la plus aiguë. Ensuite, il y a la soprano léger, qui est plutôt les rôles de bel canto, Donizetti, Bellini. Lyrique léger, c'est déjà un peu plus charnu. Ça sera Pamina dans la flûte enchantée, donc la fille de la reine de la nuit. Et puis ensuite, on va vers le mezzo-soprano. Soprano lyrique, ça sera d'abord la soprano lyrique qui sera les grands rôles pucciniens et puis Traviata, ces choses-là.
Traviata,
il faut trois voix, donc c'est un mauvais exemple en fait. Et ensuite la mezzo-soprano qui va aussi souvent chanter des rôles d'hommes, comme par exemple Sesto dans La Clémence de Titus, ou bien les mezzo de Strauss, Octavian, componiste. Et puis ensuite il y a l'alto et la contralto, ça ce sont des voix plus rares, puisqu'elles sont vraiment graves, un peu sépulcrales. C'est souvent des très, très grandes dames, un peu sérieuses. mais il y en a quelques exemples. C'est Kathleen Ferrier, le plus grand exemple.
Oui.
Une dame qui est morte il y a longtemps. Mais de nos jours, il y a peut-être...
Il y a très peu.
Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Disons, peut-être Marie-Nicole Lemieux, qui est connue aussi pour tout ce qu'elle fait dans l'opéra de Vivaldi, où elle chante souvent des rôles d'hommes, justement. Mais voilà, ces voix-là sont moins fréquentes. Et puis après, il y a les voix d'hommes.
Et chez les voix d'hommes, c'est ténor, contre-ténor, baryton?
Alors,
il y en a
d'abord contre-ténor, qui est concurrence exactement la mezzo-soprano ou la contralto. Hein, donc, c'est une voix d'homme, mais qui chante dans sa tessiture, dans son registre aigu.
Aigu, oui.
En voix de tête, en fossé. Il y a plein de termes. Hein, voilà. Bon, là, j'espère que j'embrouille pas nos auditeurs, mais voilà, contre-ténor. Ensuite, ça sera le ténor. Et là aussi, il y a plein de ténors. Il y a le ténor très aigu, le ténor de caractère. Il y a le ténor Helden Ténor qui va faire les Wagner, qui est un peu baritonnant. Ensuite, il y a le bariton. Ça, c'est la voix la plus répandue chez les hommes, qui fait Escamillo, Don Giovanni. Et puis, il y a le bariton basse. Ça, c'est Leporello. Et puis, après, il y a les basses. Et ça, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup qui fait Mephistopheles, Zarastro, dans la flûte, voilà.
Ah, merci pour ce petit cours. Ah, mais tiens, Nicolas, à ton tour d'aller au tableau. Le rôle d'un chef d'orchestre, parce que Nicolas, tu es également, donc tu es pianiste de formation, mais
oui.
Tu es aussi chef d'orchestre et directeur musical.
Oui.
Donc le rôle d'un chef d'orchestre, c'est pas que tenir la baguette.
Il y en a qui font les beaux comme ça. Ça peut être une position assez avantageuse, mais en général, le rôle du chef d'orchestre, c'est de rassembler les énergies et mettre tout le monde dans une même dynamique rythmique. dès qu'il y a un peu trop de monde, quand on est encore le groupe qu'on est là, on peut s'en sortir sans. Mais dès que le groupe s'agrandit, et puis alors à l'opéra, quand interviennent les chœurs, toutes sortes de mouvements en scène, etc., les gens ont besoin d'avoir visuellement quelqu'un sur lequel se centrer pour que tout aille ensemble, tout se rassemble autour d'une personne, sinon ça part dans tous les coins. Donc tous les changements de tempo, dans un opéra il y a beaucoup de changements de tempo, mais aussi dans des symphonies, il faut que quelqu'un soit là pour donner ces changements de tempo et aussi pour équilibrer les masses, parce que dans l'orchestre il y a beaucoup de, il y a les cordes, les vents, les cuivres, les percussions, et il faut équilibrer tout ça, sinon par exemple les percussions peuvent jouer beaucoup trop fort et on n'entend plus rien du reste, et donc le chef tout au long d'un spectacle ou d'un concert équilibre, dit l'un plus fort, l'autre moins, etc. Et puis il donne aussi les phrasés, donc la direction d'une mélodie, l'énergie générale.
Et merci pour toutes ces explications. Nous repartirons aujourd'hui beaucoup, beaucoup moins idiots, vraiment. Et pour compléter notre connaissance de la musique, nous allons écouter maintenant La Passion, selon Saint-Jean, de Bach. Johann Sebastian Bach, La Passion selon Saint-Jean. Donc vous êtes sur CFM Radio et nous parlons de la musique, du festival Musique sur Ciel, dont c'est la 43e édition. Et avec nous aujourd'hui dans le studio, nous avons Nicolas Kruger et Salomé Allaire. Donc Nicolas Kruger, pianiste et chef d'orchestre. Salomé Allaire, chanteuse, qui est avec nous. Et ils viennent déjà de nous faire un bon petit cours de pédagogie sur des termes que l'on entend régulièrement en musique classique. Et puis moi, il y a une citation que j'ai retrouvée qui disait « Mieux vaut l'erreur du compositeur que la soi-disant vérité de l'interprète ». Pour toi, Nicolas, par exemple, qu'est-ce que ça représente d'interpréter une œuvre d'un grand maître au piano ou de diriger un orchestre sur cette œuvre-là ?
C'est intéressant d'en parler justement à propos de Schoenberg qui écrit dans sa partition aux musiciens « N'interprétez pas le texte. Essayez pas de trouver des caractères ou des choses, commencez par faire ce qui est écrit, parce que j'y ai tout mis. La notation est très très précise, tout est là. Si vous simplement vous contentez de faire très bien ce que j'ai écrit, le caractère va ressortir, vous n'avez pas besoin d'interpréter. Voilà. Oui. C'est la méfiance fondamentale de beaucoup de compositeurs pour leurs interprètes, savoir. Des libertés, il faut prendre des libertés parce qu'on est vivant, hein, on n'est pas des machines qui exécutons, mais il faut quand même essayer de s'approcher le plus possible, de retrouver ce que le compositeur a tenté de nous dire.
Surtout qu'il a, effectivement, il y a tout mis, il est extrêmement précis, il y a énormément d'indications, et déjà d'essayer de faire tout ce qui est écrit, c'est beaucoup, beaucoup de travail, donc ça veut bien dire que si on y arrive, on a déjà atteint assez, on s'est déjà vraiment bien approché de ce que voulait Schoenberg.
Et toi, Salomé, pour interpréter au chant une œuvre, comment tu te prépares, comment tu rentres dans un rôle ?
Bah, y a évidemment déjà bien comprendre l'histoire, bien comprendre, mais comprendre une histoire, c'est pas juste comprendre le français, comprendre les mots. Mmh. C'est comprendre tout ce qui est en dessous. Tout ce qui n'est pas dit, mais les rapports entre les gens, les jeux de pouvoir, les secrets. Pourquoi ce personnage va rentrer sur scène à ce moment-là, Pourquoi d'un seul coup il se met à chanter un air, qu'est-ce que ça véhicule comme émotion? Donc c'est tout ça sur quoi il faut réfléchir. Donc quand on dit raconter une histoire, ça, on se dit oui, bon d'accord, tu racontes une histoire, vraiment, hein, c'est intéressant. Mais oui, mais c'est pas si évident. Parce que raconter une histoire, quand on la raconte à des enfants, c'est un public vraiment impitoyable. Si c'est pas vraiment complètement porté par des sentiments vrais, les enfants s'intéressent plus. Et il s'agit pas juste de réciter quelque chose, mais vraiment que ce soit complètement porté par ce qui n'est pas dit, mais les sentiments, les émotions. Et c'est donc ça le gros du travail. Et après, évidemment, préparer un petit peu les notes, chanter, ça se prépare aussi, hein. C'est pas certains airs, ça vient pas comme ça tout seul, hein. C'est pas toujours comme de chantonner sous sa douche. Il y a des choses qu'il faut vraiment travailler. Donc là, comme ferait un instrumentiste qui fait ses gammes. Hein. Et puis après, évidemment, il y a tout aussi tout un travail de contexte. Essayer de savoir comment ça a été créé, par qui, ce qui a précédé l'œuvre, ce qui se passait à cette époque-là,
au même moment. Le contexte à l'époque aussi, voilà. Oui.
Et puis tout ce qui peut faire écho à l'œuvre qu'on prépare en littérature, en peinture. Voilà, se trouver tout un univers qui est en lien avec l'œuvre qu'on prépare.
C'est ce qu'on fait d'ailleurs, demain. Le programme est agencé comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'on donne à entendre où est né, dans quoi, dans quel cadre est né le Pierrot Lunaire.
Donc
on
ne
le balance
dans
pas
le...
comme ça, prenez ça dans la gueule.
Ouais.
on est dans la Vienne du début du XXe siècle.
On met en situation.
Le cabaret, la naissance du cabaret berlinois qui perdure jusqu'à maintenant, enfin, qui a été très vivant tout au long du XXe siècle.
Donc c'est à 20h30 demain à l'église Saint-Michel. Salomé Aller, soprano, Marion Ralincourt à la flûte, Benoît Savin, clarinette, Pablo Schatzmann au violon, et notre ami Gauthier Hermann au violoncelle, Nicolas Kruger, piano et direction. Donc à 20h30, église Saint-Michel. Demain, mercredi 23 juillet, je rappelle la programmation d'aujourd'hui. Donc là se termine le concert impromptu au Musée du Sucre par le violon virtuose. À 17h30 à la maison Gaugiran, causerie entre musiciens et luthiers. Et puis le grand concert du soir, c'est Jean-Claude Pentier et le quatuor Girard à l'église Saint-Michel. Je vous remercie,
Nicolas. Un des plus
extraordinaires
pianistes de notre temps, hein, Pentier,
Nicolas. Donc, Nicolas vous conseille Jean-Claude Pentier à 20h30 à l'église Saint-Michel. Allez le voir. Et le quatuor Girard. Je vous remercie vraiment d'être venu dans le studio. J'avais encore énormément de questions à vous poser, mais ce sera pour une prochaine fois.
Oui, volontiers.
Merci à vous, festival et bon concert demain.
Au revoir.
C'était Le Mag. Merci Thomas pour la réalisation. Nous nous retrouvons demain. Au revoir.